Bonjour à tous. Bienvenue à l'ENSIB. Nous avons la joie d'accueillir ce soir Romuald Bodin et Sophie Orange pour leur ouvrage « L'université n'est pas en crise ». Ouvrage qui, vous le verrez, vient à l'encontre des idées reçues sur l'université et les différentes crises qui peuvent la traverser ou qui ont traversé au fil des temps. Une petite présentation rapide de nos deux auteurs. Donc Romuald Bodin, à ma gauche, je voudrais commencer par les dames. On a pris par ordre alphabétique. Donc Romuald Bodin est sociologue. Il est maître de conférence à l'université de Poitiers. Et ses recherches portent essentiellement sur l'échec en premier cycle à l'université et les parcours en œuvre dans l'enseignement supérieur. Il a également publié Les Métamorphoses du contrôle social en 2012 et il fait partie d'un groupe de recherche et d'études en sociologie du Centre-Ouest. Quant à Sophie Orange, elle est également sociologue, maître de conférences également, mais à l'université de Nantes, cette fois. Elle est chercheure au Centre des études nantaises en sociologie. Et quant à elle, elle a travaillé principalement sur les sections de techniciens supérieurs et sur les choix d'orientation dans l'enseignement supérieur. Ces deux auteurs nous font le plaisir d'être parmi nous ce soir, au terme d'une longue... un cursus au fil de l'année écoulée dans différents établissements d'enseignement supérieur qui vont de l'EHESS à différentes universités ou parfois des interventions devant des jeunes militants. Et donc ce soir, c'est à l'ENSIB qu'ils vont nous faire cette conférence sur la crise ou pas à l'université. Donc je vais laisser dans un premier temps Romuald commencer et puis Sophie nous continuera ses conférences avant que nous ayons une forme de deuxième partie et de conclusion par Romuald.
Bien, bonjour à tous. Je vais tout simplement introduire notre propos avant de laisser la parole à Sophie qui... fera une première partie et puis je reprendrai ensuite la parole. Simplement, en guise d'introduction, je voulais revenir sur la genèse de cet ouvrage pour plusieurs raisons. Déjà pour contextualiser un petit peu la situation dans laquelle nous l'avons écrit et les raisons pour lesquelles nous l'avons écrit. Et puis pour contextualiser aussi en quelque sorte notre propre travail, le travail qui explique cette production écrite. Alors, une première précision avant de commencer sur le titre. L'université n'est pas en crise, vous en doutez. Hein, c'est un titre qui a fait parler, qui a fait réagir de nombreuses personnes. Alors, avant d'entrer dans le détail et pour en quelque sorte faire disparaître tout suspense, puisque de toute façon vous l'auriez compris vous-même par la suite à travers nos propos, mais je vais tout de même le préciser dans cette introduction. Quand nous disons que l'université n'est pas en crise, nous disons quelque chose de très spécifique. Qui est un discours qui est finalement très ancien, beaucoup plus ancien qu'on peut l'imaginer, et qui consiste à décrire l'université comme étant dans une situation de dysfonctionnement continu et quasi total, puisque toutes les dimensions de ce qu'elle est sont concernées. C'est ce discours-là que nous visons. Que nous en quelque sorte contredisons. Alors contredisons, c'est un peu fort, vous le verrez, hein. Parfois nous contredisons radicalement, parfois nous le relativisons seulement, mais c'est ce discours-là que nous attaquons et non pas l'idée selon laquelle effectivement rien n'irait mal à l'université, parce que effectivement nous sommes d'accord pour dire avec un certain nombre de personnes qu'il y a des choses qui posent problème à l'université et qui méritent d'être à la fois discutées et sans doute travailler. Une fois cela dit, maintenant je voudrais revenir un petit peu sur la genèse de cet ouvrage. Pour le dire rapidement, il s'agit d'un ouvrage que nous n'avions pas prévu d'écrire, en tout cas pas prévu au sens où lorsque l'on réalise une recherche dans un domaine donné, on a à minima l'ambition d'écrire quelques articles sur cette question, et en tout cas dans les sciences humaines, bien souvent à la suite de ces articles, un ouvrage. Là, c'était pas du tout le cas. Il se trouvait que nous étions engagés, Sophie, Orange et moi-même, sur des terrains de recherche assez différents et que à cette époque-là, en tout cas, nos recherches n'étaient pas communes. Il se trouve que donc Sophie Orange travaillait sur les filières professionnelles courtes et notamment sur les STS, donc les sections de techniciens supérieurs qui préparent au BTS. Et pour ma part, j'avais, après avoir travaillé sur les écoles du travail social, je m'engageais dans une recherche sur l'abandon, en tout cas ce qui est appelé l'abandon et l'échec dans les premiers cycles universitaires. Et c'est à partir de ces deux terrains-là et de discussions que nous avions régulièrement ensemble qu'est née l'idée de cet ouvrage, parce que nous étions confrontés donc à un discours, à des discours qui, à différents niveaux en tout cas, étaient complètement décalés par rapport aux observations que nous pouvions faire sur nos terrains respectifs. Et c'est à partir donc de ce décalage entre ce qui pouvait se dire sur l'université, et comme vous allez voir, pas que sur l'université, mais aussi sur d'autres filières de l'enseignement supérieur, et sur ce que nous pouvions observer ou mesurer empiriquement à travers, par exemple, des données statistiques, qu'est venue l'idée de cet ouvrage. Voilà donc pour cette rapide introduction, et je vais tout de suite donner la parole à Sophie.
Alors bonjour, bonsoir à tous. Donc pour commencer un peu sur cette présentation et rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par vous présenter en fait quelques citations qui nous semblent assez représentatives en fait de l'image qu'on peut avoir de l'université française. Alors je laisse Romuald présenter ces citations. Alors première citation, à l'insuffisante efficacité interne de l'université, caractérisée par des pourcentages d'échecs évidemment inacceptables, s'ajoute l'insuffisante efficacité de l'ajustement entre le système d'enseignement et la vie active. Deuxième citation, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, en dehors des écoles, le système universitaire apparaît souvent incapable, aux yeux de l'opinion publique, de suivre l'évolution des emplois proposés et de répondre à l'attente des jeunes qui souhaitent être préparés à l'exercice d'une profession. Et enfin, troisième citation, là toujours dans l'idée de se mettre dans le contexte de ce diagnostic hein, qui est fait sur la situation actuelle de l'université. Donc troisième citation, il est actuellement inquiétant de constater le scepticisme croissant au sujet de nos diplômes universitaires, alors que le prestige des grandes écoles, dont le système repose sur la sélection, non seulement se maintient, mais croît. Donc là, on a affaire, en fait, à trois citations de parlementaires qui font pleinement écho, en fait, aux débats récents qui ont pu avoir lieu autour des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc notamment la loi de 2013 portée par Geneviève Fioraso. Mais on a également, effectivement, des citations qui cadrent aussi parfaitement avec une loi un peu plus ancienne de quelques années, la LRU, portée cette fois-ci par Valérie Pécresse. Donc dans la loi de 2013, eh bien, l'idée c'est d'établir les bases de licences pluridisciplinaires, c'est de penser davantage la continuité entre le secondaire et l'enseignement supérieur, c'est aussi de penser à des relations plus marquées entre l'université et puis le monde économique. Et dans cette loi, il y a également des quotas hein, instaurés pour orienter davantage de bacheliers professionnels vers les sections de techniciens supérieurs et davantage de bacheliers technologiques vers les IUT. Donc le fameux continuum Bac-3, Bac+3. Donc là, on est sur la loi de 2013 et on voit que ça cadre très bien avec ces citations. Mais ces citations, elles cadrent aussi très bien, je vous le disais, avec cette loi de 2007, la LRU, loi relative aux libertés et responsabilités des universités, portée par Valérie Pécresse cette fois-ci, et notamment le plan réussite en licence, où là aussi on avait une lutte contre l'échec massif des étudiants en première année d'université, et plus généralement dans le premier cycle universitaire. On avait également dans cette loi eh bien, la volonté de renforcer les relations entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et puis on avait aussi un autre élément qui était la mise en œuvre d'une orientation active pour les bacheliers. Donc on voit qu'on a des citations qui sont tout à fait représentatives et emblématiques de la description qui est faite de la situation de l'université à l'heure actuelle et des réformes hein, qui ont eu lieu en 2007 puis en 2013, donc dans les 10 dernières années. Or, ces trois citations de parlementaires, en fait, elles ne datent ni de 2013 ni de 2007, mais la première est à rendre à Jean Capel, député UDR en 1968. La deuxième est rapportée à Jean-Claude Cassin, député socialiste en 1983. Et la dernière est restituée à Jacques Cressard, député UDR, en 1973. Et en fait, ce sont des citations extraites de débats parlementaires qui ont eu lieu à l'occasion d'autres, en fait, grandes réformes de l'université de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment la loi Faure en 68, la loi Savary en 84, et puis aussi la création des DEUG en 1973. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a présenté ça en premier, puis pourquoi est-ce qu'on a essayé de vous induire en erreur dès le départ? C'est pour vous montrer en fait ce à quoi on a été confronté quand on a travaillé sur ce livre et qu'on a écrit ce livre en fait, c'est-à-dire que ce discours de la crise de l'université et puis des éléments constitutifs en fait de cette crise de l'université, eh bien on l'a trouvé de manière récurrente en fait dans les choses qu'on a pu lire depuis la moitié du XXe siècle. Alors pourquoi depuis la moitié du XXe siècle? Parce qu'on n'est pas allé regarder avant, mais effectivement on a été frappé par la constance des diagnostics en fait qui sont établis et qui ont été établis sur l'université à travers les époques, que ce soit par les hommes politiques, là on est sur les débats des parlementaires, mais aussi dans le cadre des médias par exemple. Donc c'est aussi pour ça, et là je reviens un petit peu sur l'idée du titre, hein, l'université n'est pas en crise, alors effectivement un peu provocateur, mais pas que. Il y avait aussi cette idée qui nous plaisait bien quand on a choisi ce titre, que ça résumer aussi une partie de ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire que parler de crise de l'université, ça n'a pas de sens, parce que le mot crise, on l'a retrouvé à plusieurs reprises, en fait, dans les lectures qu'on a faites, aussi bien des débats parlementaires que dans les prises de position médiatiques, et on s'est rendu compte, en fait, que finalement, la crise de l'université, la crise universitaire, ça recouvrait des choses extrêmement différentes au fil du temps. Donc, par exemple, la crise de l'université, c'est parfois quand il y a des désordres étudiants, lié à des réformes, et donc les étudiants se mobilisent contre ces réformes et donc on va parler d'une crise universitaire, notamment en 68, mais pas que. Sachant que le terme crise universitaire ou crise de l'université apparaît bien avant, en 1968. C'est pas 1968 qui donne le départ en fait de cette appellation. On parle de crise de l'université également chez les hommes politiques ou dans les médias, et bien quand les effectifs de l'université vont augmenter de manière très massive, ça va être le cas de la première massification scolaire des années 60, où là on va parler d'une crise de l'université, parce que les étudiants débordent de partout. On parle à nouveau d'une crise de l'université lors de la deuxième massification scolaire, donc du tournant des années 90, re-crise de l'université. Et puis on va parler aussi plus récemment de crise de l'université quand les étudiants ne viennent plus à l'université, donc quand il y a eu véritablement un étiage en fait de la population étudiante au début des années 2000. On va aussi parler de crise de l'université. Donc on voit que finalement ce mot crise de l'université, crise universitaire, il est utilisé depuis très longtemps, depuis au moins le milieu des années depuis au moins le milieu du XXe siècle, et il recouvre vraiment beaucoup de choses. Donc à notre sens, c'est pas une expression qui est heuristique pour analyser sérieusement et en détail la situation actuelle de l'université. D'où effectivement le titre, l'université n'est pas en crise, c'est dire voilà, de notre point de vue, c'est pas comme ça qu'il faut analyser les choses, et c'est pas satisfaisant d'utiliser cette catégorie d'analyse pour le faire. Alors si je rentre un petit peu plus dans le détail en fait de ce qui fait le fondement de cette crise de l'université qui finalement est véhiculée année après année, décennie après décennie, nous on a repéré avec Romuald trois éléments en fait qui sont constitutifs de ce discours de la crise et qui viennent de manière récurrente dans les diagnostics. Alors premier élément qui est récurrent dans ce discours de la crise et dans ces fléaux en fait qui concernent l'université, c'est le fait que l'université en tant que seule institution d'enseignement supérieur non sélective, on va considérer qu'elle va être amenée à récupérer tous les étudiants que les autres filières ne veulent pas. Et donc va constituer la voiture balai en fait de l'enseignement supérieur, avec des étudiants non choisis et ne choisissant pas non plus. C'est-à-dire que l'université ne choisit pas ses étudiants, et par extension aussi on va affirmer, alors c'est effectivement tous ces porteurs en fait de ce discours de la crise ont affirmé que les étudiants qui viennent de l'université ne veulent pas aller à l'université, ils auraient voulu aller ailleurs, mais ils n'ont pas été sélectionnés. Donc cette première vision-là, elle va alimenter également tout un discours de la baisse du niveau, en fait, qui est assez présent aussi, à la fois dans les débats politiques, hein, qu'on peut retrouver assez facilement lorsqu'on regarde les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais également, on va trouver ça également dans les médias. Voilà, donc ça aussi, c'est tout ce qui concerne ce premier point, basé sur une vision binaire en fait de l'enseignement supérieur, avec l'université seule filière ouverte face à toutes ces autres formations sélectives qui viendraient la concurrencer en fait en quelque sorte, et qui ne lui laisseraient en fait que les rebuts, que les miettes en fait des étudiants, et puis les moins bons scolairement, et puis les plus fragiles aussi socialement. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Je donne les deux autres éléments constitutifs de ce diagnostic habituellement opéré sur l'université. Alors, deuxième condamnation récurrente de l'université, eh bien, c'est le gâchis humain que constitue l'abandon dans les premiers cycles universitaires. On entend parfois parler de l'hypocrisie de la sélection par l'échec. Alors, Romuald y reviendra tout à l'heure, hein, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En fait, on a l'impression chaque année que dans les médias, on va trouver effectivement, et oui, un abandon alarmant dans les premiers cycles, comme si on avait une nouveauté. Or, c'est des choses dont on trouve les traces hein, depuis longtemps. Par exemple, Jean-Claude Cassin, que je citais tout à l'heure, parlait en 1983 de plus de 35% des étudiants qui abandonnent leurs études en cours de premier cycle. Voilà, on pourrait multiplier effectivement les citations. Mais là aussi, c'est quelque chose hein, qui est relativement permanent, en fait, dans ce discours de la crise de l'université, et permanent, effectivement, à travers les époques. Troisième vice de forme de l'université, eh bien, c'est l'absence de débouchés professionnels, alors, de l'université en général, de certaines filières en particulier, et leur inadéquation, pardon, avec le marché du travail. Donc là, juste... peut rappeler une citation récente de Geneviève Fioraso. Alors je ne la rappelle pas parce que je suis en sociologie, mais quand même, enfin voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de phrase, hein, Geneviève Fioraso, qui disait récemment: dès la seconde, les jeunes doivent savoir que des filières comme l'histoire, la sociologie ou la psychologie connaissent des difficultés d'insertion, ils doivent être prévenus. Donc voilà, on a d'autres citations à travers le temps, et là aussi avec un certain nombre de prises de parole publiques et politiques, avec certaines disciplines qui vont être pointées en fait, alors notamment effectivement l'histoire par exemple, alors je vois aussi faculté de droit et sciences par exemple, là, enfin voilà, donc il y a beaucoup de prises de parole là-dessus, effectivement, qui vont pointer effectivement comme troisième élément de cette crise de l'université, ou troisième élément du diagnostic sur la crise, eh bien, le fait qu'on a un décalage entre le monde académique et le monde professionnel, et que les étudiants ne trouvent pas de travail. Une fois qu'on a dit ça, on a dit trois éléments effectivement constitutifs qui sont relativement permanents dans le temps depuis au moins les années 1950. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce diagnostic, il est relativement partagé en fait par l'ensemble de l'échiquier politique. Alors ça, c'est autre chose qui nous a relativement intéressé et puis surpris. C'est-à-dire que là encore, en travaillant sur les comptes rendus des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on s'est rendu compte que finalement, eh bien, que l'on soit de droite ou de gauche, que l'on soit sénateur de droite ou de gauche, ou député de droite ou de gauche, finalement, il y avait un certain accord en fait sur ce diagnostic, et qu'il était relativement partagé. Alors comment ça se traduit? Bien, ça se traduit en fait par des prises de parole qui vont débuter généralement par des expressions du type « on connaît les chiffres » ou alors « tout le monde s'accorde sur le diagnostic, c'est pas la peine de revenir sur les chiffres, on est bien d'accord qu'il y a un échec massif en premier cycle, etc. » Donc finalement, on voit aussi et on comprend pourquoi finalement, époque après époque, eh bien, ce diagnostic n'est jamais remis en question, n'est jamais réinterrogé, puisque, eh bien, lorsqu'il est mobilisé, il est mobilisé comme quelque chose qui est vérifié et qui est vrai, et qui n'est jamais reposé, en fait, remis sur la table et re-questionné. Autre élément permanent, en fait, de ce discours sur la crise, c'est les réponses, en fait, à ces trois ces trois fléaux en fait de l'université. Eh bien, on va généralement trouvé que ça soit, alors là dans les prises de parole effectivement politiques et dans les réformes successives qui vont être faites à l'université et dans l'enseignement supérieur en général, on va trouver les mêmes remèdes en fait qui vont être proposés à ces trois types de défaillances de l'université. Alors, pour ce qui est le premier élément, donc c'est-à-dire le fait que l'université serait une voiture balai de l'enseignement supérieur, elle serait amenée à récupérer les étudiants les plus fragiles scolairement notamment, eh bien, on va travailler la question de l'orientation active et de la sélection. Donc ça, c'est des marronniers aussi qui vont venir régulièrement en fait sur le devant de la scène. Deuxième problème, eh bien, pour ce qui est de la question de l'abandon massif en premier cycle et de l'échec massif en première année d'université, là ça va être la propédeutisation ou la secondarisation en fait des premiers cycles qui va être régulièrement avancée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que le premier cycle ressemble plus à ce qui se fait dans l'enseignement secondaire et ressemble moins à l'université pour qu'il y ait moins un décalage qui soit moins important pour les lycéens qui deviennent étudiants. Troisième élément, donc faible taux d'insertion des diplômés, et bien là ça va être le remède de la professionnalisation aussi qui va revenir régulièrement et qui va être à la base d'un certain nombre de réformes de l'enseignement supérieur. Donc on voit finalement que quand on résume un petit peu ce diagnostic, eh bien il est vraiment fondé sur le principe d'une désorientation en fait supposée des étudiants. C'est-à-dire que on aurait des étudiants qui seraient perdus à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ils entreraient à l'université parce qu'ils n'auraient pas pu être pris ailleurs, parce qu'ils auraient vu de la lumière, etc. Donc, désorientation à l'entrée. Autre idée, autre fondement de ce diagnostic, eh bien, c'est l'idée qu'ils seraient perdus à l'université, c'est-à-dire une fois qu'ils sont à l'université, ils sont perdus, ils sont en échec, ils abandonnent, etc. Et puis, une fois qu'ils sont diplômés, eh bien, ils sont de nouveau perdus parce qu'ils ont un diplôme, mais ils n'ont pas de travail. Donc, voilà un petit peu, pour résumer, vraiment pour tirer le trait en fait de ce diagnostic, le fondement, en tout cas les présupposés sur lesquels il s'appuie. Alors juste pour donner effectivement des exemples, mais je vais aller très vite parce que après, oui je vais aller très vite, mais pour montrer aussi que ces réformes et puis que ces remèdes sont relativement anciens, par exemple, l'idée de la création de collèges universitaires, c'est quelque chose alors qui revient sur le devant de la scène à l'heure actuelle, mais qui est extrêmement ancien, on en trouve des traces dès 1944 en fait, où le directeur du service central des examens du baccalauréat, également inspecteur de Paris, prônait la création de centres de préparation aux grandes écoles et aux facultés, donc 1944 déjà, pour faire disparaître cette catégorie de jeunes gens et de jeunes filles qui, au sortir du lycée, font leurs droits ou leurs lettres, faute de pouvoir faire autre chose. On a déjà cette idée effectivement d'étudiants un petit peu perdus. On va retrouver des choses en 1966 avec la création des IUT, où là aussi, on est effectivement dans les années 60 à une période où on va créer des cycles courts pour ajuster davantage un certain nombre de diplômés aux attentes du monde économique, mais pas que. C'est-à-dire que dans la création des cycles courts dans les années 60, les IUT et les sections de techniciens supérieurs, il y a aussi cette idée d'aiguiller ailleurs qu'à l'université un certain nombre d'étudiants qui font leur apparition dans l'enseignement supérieur. Et avec cette idée, les IUT, on est bien sur la professionnalisation, on est bien sur la secondarisation et on est bien sur la sélection. Donc on a bien ces trois éléments-là qui apparaissent. Donc voilà, je ne vais pas plus loin sur ces différentes réformes et sur leur fondement, mais en tout cas, il y a toujours au principe de ces réformes une volonté effectivement de travailler sur cette désorientation supposée des étudiants. Et on est bien aussi sur une politique de gestion des flux, en fait, étudiants à chaque fois. Alors, une fois cela dit, on va essayer de déconstruire, en fait, et c'est l'objet, en fait, du livre, on a essayé de déconstruire sur la base, effectivement, Romuald l'a dit, des travaux qu'on a pu faire, ces trois éléments du diagnostic de la crise de l'université. Alors, moi, je vais en déconstruire un, et puis Romuald, au plus fort, en déconstruira deux, après. Alors, premier élément en fait auquel je vais m'attaquer, c'est le premier en fait que je vous ai évoqué, c'est cette idée en fait que dans une vision assez classique de l'enseignement supérieur, on aurait
deux grands ensembles. On a les filières sélectives d'une part et les filières non sélectives d'autre part. Donc on a vraiment habituellement, quand on pense enseignement supérieur, une vision très binaire. Voilà, il se trouve que dans cette vision binaire, l'université elle est un petit peu toute seule d'un côté, puisque c'est la seule formation non sélective de l'enseignement supérieur. Et à partir en fait de cette représentation qui est juste fondée en fait sur des catégories institutionnelles, sur des principes d'admission, sur un certain nombre d'éléments très administratifs, en fait, eh bien, on en conclut deux choses. C'est-à-dire, il y a deux amalgames en fait qui sont tirés en fait de ce premier principe. D'abord, premier amalgame qui est souvent fait, c'est l'idée que sélectif veut dire élitiste. Cette idée que les filières sélectives sont forcément des filières d'élite. Et donc, le corollaire serait que l'université, comme elle n'est pas sélective, elle va accueillir forcément les mauvais étudiants. Alors, cette idée que filière sélective égale filière élitiste, eh bien, c'est très facile en fait de montrer que ça ne tient pas du tout. Et grâce, alors pas avec ça, mais avec... Voilà ça, alors je peux même retourner parce qu'il faut que je parle bien dans le micro en même temps. Quand on travaille un petit peu sur la composition scolaire des différentes filières de l'enseignement supérieur, alors là ce qu'on a fait à travers les bacheliers à l'heure en abscisse et les bacheliers généraux en fait en ordonnée, eh bien on voit que en gros plus on va à droite du graphique, plus on a des bacheliers, un taux de bacheliers à l'heure, c'est-à-dire qui ont eu leur baccalauréat à 18 ans. Sans redoubler, qui est important, et plus on va vers le haut du graphique, plus on va avoir un taux de bacheliers généraux important dans ces filières. Donc, si on suit le raisonnement, en haut à droite, on a les filières les plus élitistes, c'est-à-dire celles qui ont le plus de bacheliers généraux, et donc le moins de bacheliers technologiques et professionnels, et celles qui ont le plus d'étudiants qui n'ont pas redoublé dans l'enseignement secondaire. Alors, effectivement, on va trouver des filières sélectives à ce pôle-là, ça va être les classes préparatoires aux grandes écoles, ça va être les écoles de commerce, ça va être les écoles d'ingénieurs, ça va être les écoles d'art, mais on va trouver également des filières sélectives à l'autre bout, c'est-à-dire tout en bas et tout à gauche. Là où il va y avoir les taux les plus faibles de bacheliers généraux, donc tout en bas, et là où il va y avoir les taux les plus faibles aussi de bacheliers à l'heure. Et là, ça va être les sections de techniciens supérieurs, donc qui sont des formations sélectives, mais qui sont celles qui accueillent le plus de bacheliers professionnels et de bacheliers technologiques dans l'enseignement supérieur, les IUT également, et je crois qu'elles ne sont pas sur le graphique, mais les écoles du travail social aussi vont être là, et les IFSI, instituts de formation, sont infirmiers. Et l'université, en fait, quand on construit cet espace de l'enseignement supérieur fondé sur les qualités scolaires, on pourrait dire, ou les ressources scolaires des étudiants, eh bien, elle ne se trouve pas tout en bas de cet espace, mais elle se retrouve au milieu, en fait. Et on voit que les différentes filières de l'université, eh bien, se retrouvent réparties plus ou moins proches du pôle élitiste, et inversement, ils vont aussi se retrouver vers le pôle le moins élitiste. Mais en tout cas, on voit bien que ce premier amalgame sélectif égale élitiste ne tient pas quand on s'intéresse à la composition scolaire, en fait, des différentes formations. Donc ça, c'est le premier amalgame. On pourra y revenir dans la discussion. Le deuxième amalgame, c'est l'idée que sélectif égale électif. Sélectif égale électif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée commune veut qu'une filière sélective est forcément une filière qui est choisie positivement par les étudiants. Par exemple, le fait de passer un concours d'une école du travail social, eh bien, ça demande une démarche active, donc ça paraît forcément choisi. Le fait de faire des dossiers de candidature pour une classe préparatoire aux grandes écoles, ça demande aussi une démarche active, donc on pense que c'est forcément quelque chose de choisi. Le fait de passer le concours de l'ENSIB, par exemple, ça demande de passer un concours, de le préparer, etc. Donc on va imaginer effectivement que si vous êtes là, c'est que vous l'avez voulu quand même, et donc c'est forcément un choix positif. Et inversement, les filières dans lesquelles il n'y a pas besoin de démarche très active, pas besoin de passer de concours, pas besoin de faire des dossiers de candidature, donc encore une fois l'université, eh bien on va estimer que ça va forcément être une orientation ou une inscription par défaut et en négatif. Donc là aussi, c'est très facile en fait de déconstruire ça. Je crois qu'on a les chiffres. Non, on n'a pas les chiffres. En tout cas, quand on interroge effectivement les étudiants sur les proportions de d'orientation ou de vœux, d'orientation par défaut, en fait, de choix par défaut, dans les différentes filières de l'enseignement supérieur. Les filières qui vont accueillir le plus de choix par défaut, ça va être, encore une fois, des filières sélectives. Ça va être les sections de techniciens supérieurs, alors c'est toujours elles les mauvaises élèves de l'enseignement supérieur, mais ça va être aussi des écoles d'art, pour beaucoup, des écoles de commerce également. Et finalement, on voit que l'université, eh bien, accueille un taux relativement faible d'orientation par défaut, par rapport aux autres. Donc là encore, on voit que ça ne tient pas. On voit que ces frontières, elles ne fonctionnent pas et qu'on ne peut pas faire cet amalgame sélectif égale élitiste. Et très rapidement, pour finir sur ce point-là, juste dire que quand on interroge aussi les différents étudiants sur leur projet professionnel à l'issue des formations, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, l'université formation académique, donc non professionnalisante, va se trouver à accueillir beaucoup plus d'étudiants qui ont un projet professionnel précis que d'autres types de formations, type section de technicien supérieur, type classe préparatoire aux grandes écoles, etc. Donc voilà, donc là aussi, on voit, et c'est vraiment ce qu'on a voulu expliquer en fait dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas comprendre les orientations scolaires des bacheliers puis des étudiants, ni comprendre les parcours scolaires de ces étudiants, si on s'en tient uniquement aux catégories, si on s'en tient uniquement à des éléments administratifs, institutionnels, etc., mais qu'il faut aller voir vraiment dans les usages, en fait, dans la composition scolaire, on n'a pas parlé de la composition sociale, mais là aussi ça donne des choses intéressantes, pour comprendre effectivement, eh bien, qu'est-ce qui motive tel ou tel parcours, et où est-ce qu'il y a vraiment, eh bien, des parcours d'élite ou des parcours, au contraire, par défaut. Mais ça n'épouse pas, en tout cas, les catégories institutionnelles. Et je passe la parole à Romuald pour déconstruire deux autres éléments.
Merci. Bien, comme Sophie vient de l'annoncer, je vais continuer à déconstruire ce discours-là en m'attaquant cette fois-ci à la question de l'insertion professionnelle des étudiants, d'une part, et à la question de l'échec ou de l'abandon dans les premiers cycles universitaires. Je vais le faire dans cet ordre-là, même si ça ne suit pas l'ordre chronologique d'un parcours étudiant, mais parce que j'ai plus de choses à dire, en tout cas des choses plus surprenantes, vous allez voir, enfin je l'espère en tout cas, si vous n'avez pas lu le livre, sinon vous serez beaucoup moins surpris évidemment, mais en tout cas j'ai beaucoup plus de choses à dire surprenantes sur la question de l'abandon et de l'échec dans les premiers cycles que sur la question de l'insertion, qui sont des chiffres qui, semble-t-il, échappent à un certain nombre de nos représentants politiques, mais qui en revanche sont assez connus par les chercheurs qui travaillent sur la question des parcours dans l'enseignement supérieur. Alors pour commencer par l'insertion professionnelle, donc dans un premier temps, et oui, je voulais aussi préciser que je vais continuer à déconstruire, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, à force de déconstruire, on en vient à construire, c'est-à-dire que pour conclure, on va vous présenter non pas donc ce qu'on ne peut pas dire sur l'université et finalement l'ensemble du système d'enseignement supérieur, puisque tout est lié, tout se tient, on va pouvoir conclure sur finalement ce à quoi ressemble réellement ce système d'enseignement supérieur et le rôle très spécifique qui joue en son sein l'université. Alors pour revenir donc sur l'insertion, première chose, contrairement donc à ce discours qui consiste à dire que l'université est une usine à chômeurs, le premier constat qu'on peut faire, un constat qui est finalement très connu, de très nombreux travaux s'y sont arrêtés, c'est ce fait très simple que plus le diplôme obtenu est élevé et plus le diplômé est protégé du chômage. C'est une constante depuis maintenant plusieurs décennies. Tous les travaux sur cette question-là qui sont réalisés, notamment par le CEREC, mais pas seulement, montrent que plus le niveau de diplôme atteint est élevé, quel que soit le diplôme, et plus le taux de chômage, par exemple, classiquement calculé 3 ans après l'accès au diplôme, est faible pour ces diplômés. Alors, j'ai un graphique, qui n'est pas celui-là, qui le présente. Alors vous voyez ici plusieurs courbes qui sont, alors vous avez au milieu la courbe la plus épaisse, la plus foncée, et le taux de chômage moyen pour l'ensemble des diplômés 3 ans après, alors je crois que c'est 3 ans, je sais pas si Bon, classiquement c'est 3 ans, donc 3 ans après l'obtention du diplôme, et ensuite vous avez la répartition des diplômés en fonction du niveau de diplôme atteint. Évidemment, je prends en compte là la totalité des diplômes, et vous voyez donc tout en haut les diplômés titulaires d'un baccalauréat, d'un CAP ou d'un BEP. Donc vous voyez un taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne nationale de tous les diplômés, mais évidemment beaucoup plus élevé aussi que les autres, qui sont tout en bas. Les deux courbes que vous avez en bas sont les diplômés du supérieur, avec les bac plus 2 et ensuite bac plus 3 et plus. Donc vous voyez que plus le diplôme est élevé, et plus vous avez donc un taux de chômage qui est faible. Et ça, c'est une constante depuis un très grand nombre d'années, en tout cas plusieurs décennies, pour ce dont on peut rendre compte assez facilement à travers les études du CEREC. Alors maintenant, on peut évidemment vouloir entrer dans le détail. Vous vous doutez bien que les choses ne sont pas homogènes au sein d'un même niveau de diplôme. La première chose que j'aimerais préciser, c'est que si on cherche plus précisément au sein des différentes filières qui constituent l'enseignement supérieur, on observe que on peut arriver à la conclusion qu'il existe deux très bons élèves. Les deux meilleurs élèves de l'enseignement supérieur du point de vue de l'insertion de leurs diplômés sont d'une part les écoles d'ingénieurs. Ici, pas de surprise, sans doute pouviez-vous vous douter de ce résultat. On sait que les écoles d'ingénieurs, en tout cas si vous avez eu l'occasion par exemple de regarder ce qu'on voit dans un magazine comme l'étudiant, les écoles d'ingénieurs présentent souvent leur taux d'insertion parce que c'est un point fort de leur filière. Alors j'y reviendrai, mais toutes les écoles d'ingénieurs sont pas tout à fait sur à égalité de ce point de vue là mais globalement, si on prend l'ensemble, cette filière que constitue l'ensemble des écoles d'ingénieurs, c'est l'un des meilleurs élèves de l'enseignement supérieur. De ce point de vue-là, pas de surprise. En revanche, il y a encore meilleur élève que les écoles d'ingénieurs. Vous allez voir que c'est beaucoup plus surprenant. Le meilleur élève de tout l'enseignement supérieur, ce sont les écoles du travail social, qui présentent un pourcentage de chômage 3 ans après l'obtention d'un diplôme du travail social de 1%. Ce qui est un record absolu, hein. Aucun diplôme, aucune filière ne présente de tels taux des taux aussi faibles de chômage 3 ans après l'obtention du diplôme. Y compris par exemple, hein, on pourrait prendre le doctorat de médecine, qui pourrait dans notre imaginaire être le meilleur des diplômes, mais qui présente par exemple, je crois, je dis de mémoire, hein, je vérifierai si vous voulez, mais 5% de non-exercice après l'obtention du diplôme, qui sans doute s'explique de multiples façons évidemment, mais qui sont moins impressionnants que ceux des écoles du travail social. Alors voilà, premier exemple. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que déjà il rappelle que le modèle qu'on a à l'esprit quand il s'agit de modifier les filières universitaires pour améliorer les taux d'insertion professionnelle, ce sont évidemment pas du tout les écoles du travail social, mais plutôt tout ce qui renvoie soit aux écoles d'ingénieurs, soit, Sophie l'évoquait tout à l'heure, à ce qui permettrait une forme de secondarisation, même si la secondarisation a plus pour but de lutter contre l'échec, et donc plutôt donc des écoles comme les filières comme les STS ou des écoles d'ingénieurs. Et dans les deux cas, on a des taux de chômage qui sont plus dans le cas des STS, un taux de chômage qui est plus élevé que pour les filières de l'université, et pour les écoles d'ingénieurs, certes un taux d'insertion relativement bon, mais pas le meilleur, donc pas nécessairement l'école qu'on devrait le plus prendre en exemple. Surtout, ça rappelle autre chose, ça rappelle que les taux d'insertion des diplômés étant essentiellement lié au secteur du marché du travail, évidemment, visé par ces diplômes. Et c'est, me semble-t-il, quelque chose qui pourtant pourrait apparaître comme évident, mais qui est souvent oublié ou écarté des discussions sur ce sujet. Puisqu'on s'aperçoit donc qu'en réalité, quand on compare par exemple deux écoles d'ingénieurs, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des taux d'insertion aussi extrêmement différents, puisque certains secteurs de l'ingénierie sont beaucoup plus offrent beaucoup plus de possibilités d'emploi que d'autres. Et on observe que si la moyenne nationale des écoles d'ingénieurs est plutôt très bonne, certaines écoles d'ingénieurs présentent des taux d'insertion qui sont, ce serait fort de dire très mauvais, mais en tout cas qui sont du même niveau que des filières universitaires ou des STS, qui sont pourtant considérés comme plutôt des mauvais élèves. De ce point de vue-là, on peut, je vous avais dit que j'irais vite, hein, donc je vais conclure sur ce point, en précisant juste ce qui, moi, me paraît important à retenir concernant l'insertion professionnelle des diplômés du supérieur. La première chose, je l'ai dit, c'est que le diplôme, aujourd'hui, même s'il protège moins qu'auparavant, non pas parce qu'il est moins protégeant, mais parce qu'il y a beaucoup plus de chômage qu'auparavant, continuer à protéger fortement du chômage. Plus le diplôme est élevé, plus le taux de chômage à la sortie de l'enseignement supérieur est faible en moyenne. Deuxièmement, évidemment, ces taux d'insertion varient en fonction du secteur du marché du travail visé. Or, de ce point de vue-là, il est à rappeler, en tout cas, on peut souligner le fait que l'appareil de formation que sont nos filières sont évidemment incapables de modifier le volume d'offres d'emploi, qu'il s'agit là d'une variable qui ne renvoie absolument pas à la qualité de formation de nos différentes filières. Pour insister sur ce point, on peut d'ailleurs faire référence au dernier rapport du Comité national de l'évaluation, qui est la suite d'une série d'interviews ou d'entretiens réalisés avec des représentants du patronat français. On vient à la conclusion, en citant le patronat lui-même, que finalement, dans une période de difficulté, en tout cas, à se projeter dans l'avenir d'un point de vue économique, finalement, ce qui apparaissait comme étant la formation la plus adéquate et la plus capable de répondre aux futures attentes économiques étaient finalement les filières les plus générales et non pas les filières les plus professionnalisantes. Ou en tout cas les plus générales des filières professionnalisantes, parce que là aussi on pourrait faire de fortes différences entre différentes façons de considérer ce que signifie professionnaliser ou professionnaliser. Bon, si vous voulez, nous reviendrons sur ce point dans la discussion, mais je clôt la question de l'insertion professionnelle pour en venir à un autre point qui est tout aussi souvent évoqué dans les débats, et qui est celui de l'échec et de l'abandon dans les premiers cycles universitaires. Évidemment, vous connaissez sans doute les chiffres, en tout cas vous les avez sans doute déjà entendus, même si vous ne les avez pas à l'esprit. Si on prend les chiffres bruts, si on se contente du constat statistique, les résultats après une première année à l'université sont effectivement assez inquiétants, puisque je prends l'année 2010-2011, puisque c'est ce que j'ai sous les yeux, mais vous verrez que finalement, peu importe l'année, vous comprendrez pourquoi je dis cela par la suite. Alors pour l'année 2010-2011, si on ne prend en compte que les nouveaux bacheliers, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans l'enseignement supérieur pour la première fois, on compte 43,1% d'étudiants qui vont passer en deuxième année, donc un peu moins de 1 sur 2, 25,4% exactement, de redoublement et 31,5% d'abandon. Pour l'instant, je dis abandon, vous verrez que très vite, je vais utiliser un autre terme. Donc, en tout cas, vous voyez, un étudiant sur trois en 2010-2011 a abandonné, a décroché. On utilise tous ces termes, hein, aussi bien dans les publications médiatiques que dans les publications scientifiques. En tout cas, ne s'est pas réinscrit dans la filière où il était auparavant inscrit. Alors, première chose qui va conduire déjà à modifier un petit peu notre lecture de ce phénomène, qui, à première vue, effectivement, paraît tout à fait problématique. Et je ne vais pas dire qu'il ne l'est pas du tout, mais en tout cas qu'il est très mal traité, très mal interprété. Alors, premier phénomène, généralement, quand on présente ces taux-là, on les présente comme la preuve d'un dysfonctionnement récent de l'université, en tout cas de ses premiers cycles. Or, le premier constat que nous avons fait avec Sophie, c'est que aussi loin que nous pouvons remonter dans le temps, ces taux sont absolument les mêmes. C'est-à-dire que, je crois que le chiffre le plus ancien que nous avons, c'est pour la fin des années 50, on trouve des taux de non-réinscription après une première inscription à l'université qui sont identiques. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la fin des années 50, au moins, puisque nous ne sommes pas remontés plus loin, mais depuis la fin des années 50, on observe un tiers des étudiants qui ne se réinscrit pas dans la même filière après une première année d'inscription. Premier constat, donc, constante. Qui, d'un point de vue sociologique, alors je ne vais pas m'étendre sur cette question-là, mais d'un point de vue de l'analyse du phénomène, d'un point de vue sociologique, est très important puisqu'il rappelle qu'on ne peut pas analyser un phénomène qui se présente comme une constante année après année d'un point de vue individuel, c'est-à-dire comme l'expression de mal-être individuel, de mauvaises expériences, etc. C'est nécessairement un phénomène structurel. J'y reviendrai. Alors, deuxième constat tout aussi étonnant, donc au-delà de cette constante dans le temps des taux d'abandon ou de décrochage, comme vous voulez, on prend généralement cet exemple-là comme étant l'indication ou la preuve du dysfonctionnement de l'université française. C'est-à-dire que ces choses-là seraient inadmissibles et de toute façon inexistantes dans les autres filières de l'enseignement supérieur étrangères. Or, ce n'est absolument pas le cas puisque les travaux de comparaison liés à l'OCDE, que réalise l'OCDE, même si on peut parfois critiquer, y compris ces chiffres-là, réalisés par l'OCDE, il n'en reste pas moins que si on compare tel que le présente l'OCDE, ces chiffres, la France apparaît plutôt comme un très bon élève. C'est-à-dire qu'en réalité, au niveau des pays de l'OCDE, le taux de non-réinscription après une première année dans l'enseignement supérieur est généralement très élevé dans tous les pays de l'OCDE. Et on obtient même des records. Alors le chiffre que je vais vous donner là n'est pas simplement la non-réinscription après une première année, mais le décrochage, parce que c'est en fait le risque, hein, c'est ce qui nous inquiète, c'est la sortie de l'enseignement supérieur sans diplôme. Parce que vous verrez qu'évidemment, en réalité, les non-réinscriptions sont loin de tout se conclure comme cela. Mais donc, ce qui est inquiétant, ce serait la sortie de l'enseignement supérieur sans diplôme. Or, on s'aperçoit de ce point de vue-là. Là, on a une constante. Hein, pour l'université française, c'est tout aussi constant que la non-réinscription, simplement, quel que soit ce qui se passe après. C'est 25%. C'est 25% depuis la fin des années 50. Selon l'étude donc de l'OCDE à laquelle je fais référence, la France du coup se trouve plutôt du côté des bons élèves, puisque les pays qui sont entre 20 et 25% sont les meilleurs élèves de l'OCDE. On obtient à l'inverse des taux extrêmement élevés. Par exemple, en Italie, c'est 55%. 55% des étudiants qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur en sortent sans diplôme. Aux États-Unis, c'est 55% aussi, au Royaume-Uni, c'est 35%, etc. Je vous donne quelques exemples, mais on pourrait évidemment les multiplier. De ce point de vue-là, donc, la France présente plutôt de très bons résultats en termes de maintien de ses étudiants en son sein. Enfin, autre constat tout aussi étonnant, c'est que quand on présente ces chiffres-là, on présente toujours les chiffres concernant l'université sans préciser ce qui se passe dans les autres filières, parce qu'évidemment ça paraît tout à fait étonnant, impressionnant, etc. Mais évidemment, relativement à quoi? À quoi s'attendait-on? Pourquoi est-ce qu'on trouve que 25% donc de non-réinscription, c'est si élevé que cela? Que se passe-t-il dans les autres filières? Eh bien là aussi, surprise, dans les autres filières, on est loin d'être à de constater des choses très très différentes de ce qui se passe à l'université. Alors je vous donne les chiffres pour 2003, alors c'est un peu ancien, vous me le pardonnerez, mais en fait, ces chiffres sont très difficiles à obtenir. Là, par exemple, la plupart des grandes écoles refusent de donner leur taux de non-réinscription, alors qu'il y a des taux de non-réinscription non négligeables, notamment dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. Il y a des travaux spécifiques, hein, y compris sur HEC, par exemple, avec des taux de décrochage HEC qui ne sont pas négligeables. Mais ces chiffres sont très peu diffusés, hein, y compris ce qu'on a pu constater aussi avec Sophie, avec des mécontentements au niveau du ministère qui est obligé de réaliser des données, des constats statistiques sans pouvoir avoir accès à certains chiffres concernant un certain nombre de grandes écoles. Bref, Alors, pour, il se trouve que pour l'année 2003, c'est l'année la quasi la plus complète que nous avons à disposition, ce qui permet de comparer toutes les filières, sans quasiment aucune exception, même s'il y a là aussi quelques petites absences. Alors, pour les STS, par exemple, pour les sections de techniciens supérieurs, nous obtenons un taux à peu près de 10% de non-réinscription. Après donc une première année en BTS. Alors ce taux-là est le plus faible. Alors il peut paraître faible, même si c'est pas négligeable hein, quand même, 10% de non-réinscription. Mais il peut paraître bien meilleur que celui de l'université, mais je précise tout de suite, c'est le plus faible de tout l'enseignement supérieur. Les STS, qui sont plutôt de mauvais élèves pour leur taux d'insertion, sont par contre de très bons élèves en termes de rétention des étudiants. Ensuite viennent les IUT qui présentent un taux globalement de 15% de non-réinscription, en tout cas en 2003. Mais comme vous l'avez compris, ces taux sont très constants d'une année sur l'autre. Donc 15%, ce qui commence à devenir quand même relativement élevé, hein, surtout pour une filière, les STS et les IUT qui sont très secondarisés, alors les STS encore plus, hein, puisque elles se trouvent dans les lycées, et qui malgré tout semblent avoir elles aussi du mal à ne pas à éviter toute forme d'abandon. Ensuite viennent les classes préparatoires. Les classes préparatoires qui sont généralement présentées comme les bons élèves par excellence de l'enseignement supérieur. Eh bien, les classes préparatoires présentent pour cette année-là, je donne le chiffre exact, là, 22,2% de non-réinscription après une première année en classe préparatoire. Cette même année, l'université présente un taux de 22,4% de non-réinscription en première année. En d'autres termes, les taux sont absolument identiques à l'université et au sein des classes préparatoires en 2003. Surtout, on obtient un chiffre bien plus élevé encore, et c'est cette catégorie, alors malheureusement c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais c'est la catégorie qu'utilise le ministère de l'enseignement supérieur, puisque là on s'appuie sur ces chiffres-là, c'est la catégorie école et autres formations qui réunit toutes les écoles du supérieur, c'est-à-dire à la fois les grandes écoles et les plus petites écoles. Et dans cette catégorie, on obtient un taux moyen de non-inscription de 37,2% pour l'année 2003, après une inscription en première année, c'est-à-dire bien supérieure aux universités et aux classes préparatoires, mais aussi évidemment aux IUT et aux STS. Alors voilà pour une première contextualisation qui n'est pas une relativisation. Hein, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas problème d'avoir un étudiant sur 3 ou presque, un étudiant sur 4 en tout cas, qui ne se réinscrit pas après une première année à l'université. Mais en déduire ce serait la preuve d'un dysfonctionnement patent de l'université auquel ne participeraient pas du tout les autres filières, c'est un peu fort, dans la mesure où dès qu'on va voir ce qui se passe dans les autres filières, on s'aperçoit qu'on a des taux soit tout à fait comparables, soit même parfois dans les écoles encore beaucoup plus élevés. Surtout, on s'est intéressé à essayer de savoir réellement qui sont ces étudiants non réinscrits, à savoir ce qu'ils étaient devenus. Et vous allez voir que quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que le terme même d'abandon, et c'est pour ça que vous avez vu, je commence à ne plus dire abandon, je commence à dire non réinscription, ce qui n'a pas tout à fait le même sens, devient tout de suite très différent. Alors première chose, c'est une catégorie, c'est pour ça que quand je suis pas dans cette présentation, mais quand je travaille, j'évite de dire abandon, je parle des différentes formes de non-réinscription, parce qu'en réalité, donc, cette catégorie est une catégorie extrêmement hétérogène. Nous avons rencontré, alors plus précisément, hein, il s'agit d'une étude qui a été réalisée sur l'université de Poitiers et qui a consisté à retrouver les étudiants qui ne s'étaient pas réinscrits, si mes souvenirs sont bons, ça doit être en 2009, ou bon, peu importe, je retrouverai l'année si ça vous intéresse, qui ne s'étaient pas réinscrits après leur inscription en première année. Ces étudiants, on en a retrouvé quand même un certain nombre, puisqu'on a retrouvé à peu près 1000. Et ce que je vous dis là, c'est le profil et ce que sont et ce que sont devenus ces étudiants, ces étudiants qui ne s'étaient pas inscrits, que nous avons retrouvés. Alors première chose, donc, forte hétérogénéité de ce groupe. Nous avons donc dans ces étudiants en abandon, mettez des guillemets, à la fois des étudiants qui étaient des étudiants salariés et qui ont dû arrêter leurs études pour des raisons financières, mais avec le projet, qu'on ne peut pas savoir s'il sera effectivement réalisé, hein, mais en tout cas avec le projet au moment des entretiens que nous avons réalisés, avec le projet de revenir dans l'enseignement supérieur, mais une fois leur difficulté financière stabilisée. Le cas le plus fréquent était l'étudiant qui était à un tiers-temps ou à mi-temps, qui avait donc obtenu un contrat à tiers-temps ou à mi-temps, et qui, pour des raisons financières, est obligé d'augmenter son contrat, trois quarts-temps, voire un contrat à temps plein, et qui, de ce fait-là, se désinscrit ou ne se réinscrit pas avec l'objectif de ne le faire que pendant une année, de façon à rétablir ses finances et à pouvoir se réinscrire à nouveau l'année suivante. On a aussi le cas d'étudiants, par exemple, préparant en première année de médecine, qui n'ont pas le concours et qui, du coup, après cet échec, ne se réinscrivent pas à l'université. Évidemment, alors, vous voyez, encore une situation très différente. On ne peut peut-être pas considérer que toutes ces personnes sont dans la même situation. Autre exemple, l'arrêt d'un étudiant quinquagénaire qui était en reprise d'études pour le plaisir, pour découvrir une autre filière, parfois des étudiants très diplômés. On a par exemple rencontré des ingénieurs qui s'inscrivaient en droit pour découvrir ce que c'est que le monde des juristes, etc. Et qui, après une année, décide de ne pas se réinscrire, soit par manque de temps ou par choix personnel. Celui d'un étudiant qui obtient un concours de la fonction publique et qui, du coup, de fait, ne se réinscrit pas à l'université. Et autre cas, alors je ne les dis pas tous, hein, je ne vous en dis que quelques-uns, c'est encore plus hétérogène que cela, mais autre cas qui, moi, m'a intéressé, étant donné que j'avais travaillé sur les écoles du travail social, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des étudiants qui s'inscrivent en première année à l'université, notamment dans trois filières en particulier qui sont la biologie, la psychologie et la sociologie, pour préparer le concours d'entrée dans les écoles, soit d'infirmière, soit du travail social. Ces étudiants sont assez nombreux au sein des étudiants non réinscrits pour les sciences humaines en tout cas, et ces étudiants en fait se préparent, se servent de ces filières pour se préparer au concours d'entrée. Sophie le disait tout à l'heure, ce sont des écoles sélectives, le concours d'entrée dans les écoles du travail ou les écoles d'infirmières. Et se servent donc en quelque sorte de ces filières pour parfaire une formation dans le secondaire qui leur paraît trop faible, soit en psychologie. Vous savez que la psychologie et la sociologie sont des éléments qui sont des points forts pour réussir le concours dans les écoles du travail social, soit la biologie pour les écoles d'infirmières. Bref, on a donc des situations extrêmement hétérogènes qui n'ont pas du tout la même signification et qui, dans beaucoup de cas, sont en réalité non pas des abandons et des sorties de l'enseignement supérieur, mais des réorientations. Dans la très grande majorité des situations que nous avons observées, il ne s'agissait pas donc de sorties de l'enseignement supérieur, mais bien de simples réorientations. Alors, j'entre pas dans le détail, mais si on recalculait les chiffres à partir de ces non-réorientations, on s'aperçoit que, en réalité, le taux d'étudiants qui, après une première année à l'université, sortirait de l'enseignement sans diplôme et sans, par exemple, avoir accédé à un contrat de travail qui lui semble, en tout cas, de son point de vue, est un contrat de travail qui le satisfait, auquel il aspirait, on obtient des taux extrêmement faibles, hein, de l'ordre de 5% d'étudiants qui, effectivement, seraient perdus, n'auraient trouvé ni travail satisfaisant à leurs yeux, ni autre filière d'inscription. Je vais simplement maintenant préciser un peu les choses concernant les étudiants qui se réinscrivent, puisque ce sont des réorientations, des réinscriptions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces réorientations ? Et vous allez voir que là, je vais commencer à basculer vers non pas une déconstruction des discours habituels, mais plutôt une reconstruction. Parce que nous intéresser à ces étudiants-là nous apprend beaucoup de choses sur la dynamique de l'enseignement supérieur et le rôle que joue l'université en son sein. Alors, première chose... un effet plutôt négatif au sens où, en tout cas négatif et classique pour les sociologues de l'éducation, au sens où on s'aperçoit que si ce sont des réorientations, ce sont malgré tout toujours des réorientations qui se font du haut vers le bas. C'est-à-dire que, alors Sophie a passé tout à l'heure sur un graphique, mais que vous pouvez voir derrière moi, qui est le même graphique que, un graphique qui est constitué selon la même logique que tout à l'heure, quand Sophie montrait la distribution des étudiants en fonction de leur niveau scolaire, l'âge au bac et le type de bac obtenu. Là, vous avez la même chose, mais en ajoutant aussi à gauche. en ordonnée, vous avez le taux donc d'étudiants de classe originaire, des classes moyennes et supérieures, donc l'origine sociale des étudiants. Et vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes hiérarchies, hein, c'est-à-dire que quand vous avez en bas à gauche les STS, qui regroupent donc à la fois les étudiants les plus fragiles scolairement, mais aussi les étudiants les plus fragiles socialement, donc culturellement et économiquement. Et puis plus vous allez en haut à droite, donc plus vous avez à la fois des étudiants qui sont solides scolairement et solides socialement, ou favorisés, vous avez donc les classes préparatoires, les grandes écoles, et puis médecine, pharmacie. Entre les deux, vous avez évidemment toutes les filières de l'université. Pourquoi est-ce que je vous montre ce graphique-là ? C'est parce que ça rappelle qu'il y a une hiérarchie des disciplines implicite au sein de l'enseignement supérieur. Cette hiérarchie est très ancienne, très connue. Elle s'explique à la fois par l'histoire des disciplines, mais aussi par les secteurs du marché du travail concernés par ces disciplines. Les étudiants le savent, puisque dans les entretiens que nous réalisons, on leur demande si, par exemple, ils sont dans une discipline valorisée ou non, et si oui, à quelle mesure, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus valorisé que leur discipline, qu'est-ce qui l'est moins. Et globalement, les étudiants aident très bien à reconstruire la hiérarchie des disciplines, à dire ma discipline, c'est mieux que telle autre discipline, mais c'est moins bien que telle autre, etc. Bref, si on prend au sérieux cette idée de hiérarchie des disciplines, on s'aperçoit que les réorientations ne se font pas de façon contingente, elles ne se font pas par hasard. C'est-à-dire que globalement, les étudiants se réorientent du haut vers le bas. Par exemple, de médecine vers sciences, de droit vers sciences humaines, de sciences humaines vers AES, puisque AES est la discipline qui se trouve tout en bas de la hiérarchie des disciplines universitaires, pour sortir de l'enseignement de l'université, pardon, d'AES vers les STS, etc. Et on s'aperçoit aussi, et ça va tout à fait dans cette logique, que les étudiants inscrits en STS sont les plus nombreux à ne pas réussir à se réinscrire. C'est-à-dire que les étudiants qui sont inscrits dans les filières les plus qui se trouvent tout en bas de la hiérarchie des disciplines ou des filières de l'enseignement supérieur sont ceux qui, de fait, ont le plus de mal à se réorienter. Ce qui renforce encore cette idée de réorientation du haut vers le bas. Je vous disais que là, c'était plutôt l'aspect négatif, c'est-à-dire que cette réorientation, si on ne peut pas la confondre avec un abandon radical, c'est-à-dire une sortie de l'enseignement supérieur sans diplôme, n'en reste pas moins un renforcement de ce qu'on appelle en sociologie des hiérarchies et des inégalités sociales, puisqu'évidemment ces filières-là regroupent ou reproduisent des hiérarchies et des inégalités sociales relativement classiques. De ce point de vue-là, donc, l'abandon et les réorientations participent à ce renforcement et à cette reproduction des hiérarchies et des inégalités. Mais malgré tout, elle a un aspect très positif, dans la mesure où elle consiste aussi à des formes de réajustement progressif des capacités et des aspirations des étudiants à l'espace des possibles offerts par l'enseignement supérieur. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est, dans la discussion, Sophie pourra y revenir longuement si vous voulez, puisqu'elle réalise en ce moment une recherche sur cette question, mais c'est les représentations faussées, biaisées, réduites de l'enseignement supérieur qu'ont les bacheliers. En d'autres termes, beaucoup de bacheliers découvrent ce qu'est réellement l'enseignement supérieur et ce qu'il offre une fois entrés dans l'enseignement supérieur. En d'autres termes, c'est une fois en première année, quelle que soit la filière, hein, en première année de BTS, en première année à l'université, en première année de classe préparatoire, qu'ils se rendent compte que peut-être d'autres possibles s'offraient à eux en fonction de leur parcours dans le secondaire. Et ce qui explique en grande partie leur réorientation par la suite. Et les concours n'y changent rien, c'est ce que Sophie évoquait tout à l'heure. Les concours eux-mêmes sont faits parce que ça paraît logique de passer ce concours-là, mais c'est pas parce que on fait un concours que le choix se fait réellement en toute connaissance de cause. Bref, ces réorientations sont aussi l'aspect émergé d'un processus beaucoup plus général qui est un processus de redistribution, réorientation continue des étudiants en enseignement supérieur, forme de réorientation qui peuvent ne pas du tout passer par un échec, hein, qui peuvent être, après une première année réussie à l'université, changées malgré toute filière, etc. Des formes de réorientation qui peuvent, par exemple, vous avoir concerné, changements de filière, d'aspiration professionnelle, etc. Alors pour conclure et aller vite, même si j'ai l'impression de pas du tout avoir été clair pour sur ce point. J'aime bien présenter ce graphique pour terminer très rapidement. Je sais qu'il est illisible, mais c'est le but, hein, et encore, j'ai dû enlever toute une série de flèches parce que ça devenait réellement, même pour moi, tout à fait invitable. Là, simplement, il s'agissait de représenter, vous voyez, par une série de flèches, pardon. Et en tout cas, dans un premier temps, après, j'ai vite abandonné du fait de la complexité du graphique, mais pour vous, pour présenter comment les étudiants se distribuent dans l'enseignement supérieur et se redistribuent en réalité continuellement. Vous voyez, hein, vous avez les trois baccalauréats, en tout cas par une grande famille, qui se présentent sur la gauche, et vous avez ensuite l'entrée dans l'enseignement supérieur avec les différentes autres familles des filières qui constituent l'enseignement supérieur. Alors vous voyez que la multiplication de ces flèches montre déjà que dans un premier temps, il y a des grandes tendances, hein, vers, par exemple, les baccalauréats généraux vont massivement vers l'université et les classes préparatoires, mais pas seulement. Et puis, évidemment, par exemple, les bacheliers technologiques, vous voyez, vont très massivement vers les STS, mais pas seulement. Ce qui m'intéresse, c'est que après, vous avez une redistribution tout aussi importante. En fait, tout le long du parcours, vous allez avoir continuellement des redistributions des étudiants d'une filière vers l'autre, des réorientations, même après, pas seulement après des échecs, même après des réussites, après une licence, après une deuxième année, après un master, etc. Vous avez des réorientations. De sorte que l'on peut conclure que l'université joue un rôle majeur dans ce système très mobile et flexible qu'est l'enseignement supérieur. Et elle ne joue ce rôle que parce qu'elle n'est pas sélective. Si elle était sélective, on peut se demander dans quelle mesure les filières sélectives pourraient encore l'être, d'une certaine mesure. On y reviendra si vous voulez. Mais en tout cas, les filières sélectives ne peuvent l'être dans une certaine mesure qu'en tout cas parce que l'université ne l'est pas. Et l'université joue, en quelque sorte, le rôle de pivot par lequel passent un certain nombre d'étudiants, soit pour prolonger leur filière sélective, soit pour se préparer à leur filière sélective, donc soit en amont, soit en aval, etc., et se redistribuent continuellement grâce à l'université qui est donc cette place libre, en quelque sorte, par laquelle on peut passer, soit pour commencer, soit pour terminer, soit entre deux autres filières, entre deux autres types de formation du supérieur. Vous le voyez sur le graphique, l'université, après avoir accueilli un certain nombre d'étudiants en première année, va redistribuer une partie de ses étudiants de première année vers toute une série d'autres filières, et en grande partie des filières sélectives, et pas que les STS et les IUT, enfin même si les IUT font partie des universités, mais en tout cas pas seulement les STS ou les petites écoles de commerce par exemple, mais aussi quelques grandes écoles. On a des taux non négligeables d'étudiants qui rentrent dans des grandes écoles sans être passés par des classes préparatoires, mais en passant par des licences universitaires. Ils sont évidemment moins nombreux, mais ils existent en nombre non négligeable. Et surtout, nous avons, enfin pas surtout, mais par la suite, nous avons un certain nombre d'étudiants non négligeables, d'une part qui, après les classes préparatoires, ne vont pas vers les grandes écoles, mais vers l'université, et ensuite, encore plus avancés dans la formation, un certain nombre d'étudiants sortant d'écoles plus ou moins grandes, donc soit de grandes écoles proprement dites, soit de moyennes ou de plus petites écoles, qui vont se réinscrire à l'université pour prolonger et parfaire leur formation dans le supérieur. Bref, vous l'avez compris, je ne fais que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, l'université joue dans ce fonctionnement-là un rôle spécifique, central, de régulation, pas seulement donc comme lieu pivot, hein, de redistribution continue des étudiants, mais aussi de régulation dans la mesure où cette redistribution n'est pas sans coût, ne se fait pas de façon totalement contingente en fonction des aspirations des étudiants, mais toujours malgré tout avec un renforcement des hiérarchies disciplinaire et des hiérarchies sociales. Merci.
Merci à tous les deux pour cette présentation et pour justement aussi cette lecture très originale, parce qu'on a tendance, nous aussi, tout un chacun qui lit la presse en ces temps notamment d'orientation pour les terminales, justement sur ce discours de crise, sur le non-choix que constituerait l'université. Et finalement, ce qu'on voit à travers votre présentation et votre livre, c'est vraiment l'université comme un espace un peu singulier, hein, comme vous disiez, de redistribution, qu'on n'a pas toujours en tête, et qui est vraiment différent de cette image où on s'imagine l'université envahie par des étudiants qui finalement vont à l'université par dépit. qui seraient abandonnées par les meilleurs élèves, finalement, on se rend compte que toutes ces représentations, en fait, elles sont globalement fausses. Donc, vraiment, une approche originale, et vraiment, je vous remercie pour cet éclairage très novateur sur l'université. Alors, la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques?
Bonjour. Puisque vous nous avez convaincus, hein, je pense qu'on peut dire ça, vous avez réussi à déconstruire ce discours que vous présentiez au début. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que vous avez une hypothèse sur pourquoi ce discours se maintient depuis, enfin, quels sont les enjeux, pourquoi on continue à croire ou à colporter ces idées sur la crise de l'université?
Alors, il se trouve que effectivement c'est une question qu'on nous pose souvent. Et ce qui confirme qu'elle est très légitime et qu'elle est importante. On nous l'a posée nous précisions tout à l'heure que nous avons présenté déjà ce travail devant des personnes très différentes, puisque nous l'avons présenté à la fois dans des contextes très académiques, dans des universités, dans des écoles, mais aussi face à des au ministère, par exemple, de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, que nous l'avons présenté devant pendant des réunions de syndicats, que nous l'avons présenté à des journalistes. Et que les questions sont extrêmement différentes. C'est-à-dire, les gens n'ont pas du tout les mêmes ne se posent pas du tout les mêmes questions en fonction de s'ils sont des hommes politiques, s'ils sont en tout cas des membres du ministère, s'ils sont des universitaires, s'ils sont des étudiants, s'ils sont des journalistes, etc. Mais il y a une question qui revient tout le temps, et là c'est celle-là. Et là, pour le coup, tout le monde se demande, mais si ce discours-là est si peu fondé empiriquement, qu'est-ce qui explique son maintien? Alors, dans le livre, nous n'y répondons pas totalement. Nous évoquons 2-3 petites pistes, parce que nous-mêmes, au fur et à mesure qu'on avançait, parce que nous-mêmes, on a été surpris. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, comme je le disais tout à l'heure, dans la genèse de l'ouvrage, quand nous avons commencé à travailler, nous avons écrit parce que nous entendions plein de choses, nous lisions plein de choses, notamment dans les médias, qui étaient complètement déconnectés de ce que nous observions sur le terrain. Mais pas autant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a écrit et qu'on a dû recueillir de nouvelles données, on s'est aperçu que plus on grattait et plus le décalage était patent. Et du coup, nous, on s'est commencé à se poser la question, mais comment est-il possible que ces discours-là soient aussi anciens? Déjà aussi, sur l'ancienneté du discours, on ne pensait pas pouvoir remonter aux années 50 et trouver des gens qui disaient mot à mot ce qui se dit aujourd'hui sur l'université. Mais bon, dans le livre, on n'y répond pas réellement parce qu'on a été nous-mêmes surpris. et du coup, on était un peu désœuvrés. Ceci dit, on y a un petit peu réfléchi depuis. Et donc, ce que je vais vous dire, ce sont des pures hypothèses, puisqu'on n'a pas cherché à les vérifier empiriquement. Mais il y a quand même deux choses. La première, qui avait déjà été soulignée par des chercheurs, notamment un historien dont j'oublie tout le temps le nom, mais... Comment ? Voilà, René Raymond. René Raymond qui, lui-même, avait écrit il y a un petit moment maintenant, je crois, dans les années 80, écrit un texte assez critique sur cette notion de crise de l'université en disant, mais ces gens qui disent cela sont des gens qui peuvent être universitaires, mais qui n'ont jamais été étudiants à l'université. Sont des gens qui, la plupart du temps, sont passés par des écoles et n'ont jamais... ils font pas partie des gens dont je parle qui se servent de l'université pour accéder à d'autres écoles, etc. Ce sont des gens qui n'ont jamais été à l'université, qui du coup ne s'appuient que sur des on-dit sur l'université, qui n'ont jamais... ne s'appuient sur aucun vécu personnel. Donc c'est une réponse possible, mais qui est en partie insatisfaisante, en tout cas qui n'est pas suffisante. En revanche, avec Sophie, serions assez tentés de rapprocher cette question-là d'une question que s'était posée Jean-Claude Chabord-Redon il y a quelques années sur la question du discours porté sur les grands ensembles d'habitations d'habitations sociales avec le discours selon lequel depuis leur création, par exemple depuis la création des HLM, on a un discours constant qui est ça va de plus en plus mal, c'est de plus en plus sale, c'est il y a de plus en une ambiance de plus en plus insupportable, etc. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que à chaque décennie, les gens disent c'est nouveau. Avant, c'était bien de vivre là, et maintenant, c'est la catastrophe. Et en fait, plus on remonte, et plus on retrouve exactement le même discours, et qui en plus peut aller en contradiction de ce que disent les gens s'ils parlent de leur situation personnelle. C'est-à-dire, eux-mêmes peuvent dire que leur HLM, il est très bien. Mais c'est les HLM en général. Voilà. Et comment est-ce que Chambordon l'explique ? Il l'explique par l'hétérogénéité du profil social des gens qui vivent dans ces habitations. Et que du coup, il y a un processus sociologique qui est assez connu, mais qui est observé dans d'autres situations, y compris chez les anthropologues, pour expliquer certaines divisions comment les groupes se structurent, qui consiste à dire que quand on parle d'une population hétérogène, il y a une façon de vouloir, pour ne pas être confondu avec les autres, durcir les différences. Durcir, par exemple, les différences culturelles, durcir les habitudes quotidiennes, et, les grossir, donc conduire à des stéréotypes sur les voisins, etc. Les voisins qui font trop de bruit, les voisins qui ne disent pas bonjour parce que c'est des gens mal polis, mal élevés, etc. Et donc ce discours-là a une fonction sociale qui est de renforcer réassurer ces personnes dans leurs différences vis-à-vis de leurs voisins. Pour éviter l'amalgame, c'est pas parce qu'on habite dans le même lieu, dans le même bâtiment que on peut nous confondre. Il se trouve que l'université est un espace extrêmement hétérogène, notamment pour ce que je viens de dire. L'université, c'est un espace où vous avez des étudiants qui vont s'y inscrire pour obtenir un bac plus 3. Il y a des étudiants qui s'inscrivent pour obtenir un bac plus 8, avec tous les intermédiaires que vous pouvez imaginer. Il y a des étudiants qui sont d'origine très favorisée, qui vont s'inscrire dans les filières les plus favorisées. Vous avez des étudiants qui sont d'origine sociale beaucoup moins favorisée, et qui sont des étudiants de première génération, et qui s'inscrivent pour la première fois en enseignement supérieur. Leurs parents ne l'ont pas fait, etc. Vous avez tout ce mélange-là, et y compris les universitaires eux-mêmes, qui sans doute ont tendance à ne pas vouloir être confondus avec cette diversité des situations des étudiants qui se trouvent en leur sein. Et on peut imaginer, alors c'est une pure hypothèse puisque là on n'a aucun élément pour le vérifier, mais que si ce mécanisme-là, cette explication-là fonctionne pour les HLM, sans doute fonctionne-t-elle aussi pour les universités.
Je voulais savoir justement si, comme origine à ce discours sur l'université, est-ce qu'on ne pourrait pas le trouver dans le système même de l'université française, si on compare à d'autres systèmes, par exemple anglo-saxon ou allemand, où il me semble que, par exemple, en Allemagne, la notion de redoublement n'existe pas. Et on ne parle pas qu'on rentre à l'université pour faire un bac plus 3 ou un bac plus 8, mais seulement pour rentrer à l'université, on peut s'inscrire dans différents cursus, on peut un peu discuter les premières années, et rien n'empêche de commencer un semestre en astronomie, en biologie et en littérature, et après de se spécialiser petit à petit, et jamais la notion de redoublement n'arrive en fait. On est plutôt sur une logique de cumulation de CTS pour arriver à son diplôme. Est-ce que ça peut être une vision très française d'être toujours dans la compétition et dans le fait qu'on doit réussir son année pour passer dans l'année d'après, et donc si on n'y arrive pas, on abandonne, c'est un échec, et donc on ira ainsi.
Oui, bah, tout à fait, hein, par rapport à ça, c'est vrai que le système français, alors pas uniquement dans l'enseignement supérieur, hein, mais depuis le primaire et le secondaire, est un enseignement qui est extrêmement séquencé et où la temporalité des parcours est extrêmement valorisée ou en tout cas encadrée. Et effectivement, le fait de ne pas être à l'heure, enfin rien que l'expression bachelier à l'heure, enfin voilà, on peut la prendre avec plein de guillemets parce que ça donne aussi, c'est une manière de qualifier aussi les bacheliers ou les futurs étudiants. Donc je pense que complètement, effectivement, là on est dans une fusion où française où est attendue une linéarité des parcours, linéarité dans le temps, mais aussi, comme le disait Romuald, dans l'espace, c'est-à-dire que ce serait bien quand même que les étudiants y restent dans la filière du début à la fin. Ce serait quand même plus facile à envisager. Et ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est-à-dire que les différentes réformes en fait de l'enseignement supérieur, elles visent quand même à ordonner un peu mieux les bacheliers dans les différentes filières de l'enseignement supérieur, à gérer les flux et à faire en sorte qu'il y ait quand même des destinées naturelles pour un certain nombre de bacheliers. Par exemple, les quotas de bacheliers professionnels en BTS, les quotas de bacheliers technologiques en IUT. Voilà, chaque bachelier n'aura même plus à faire son orientation scolaire parce que finalement, il saura déjà à l'avance vers quelle est sa destinée naturelle. Et alors, je dis destinée naturelle, c'est Geneviève Fioraso qui disait ça en 2013, qui parlait de filière naturelle pour un certain nombre de bacheliers. Donc on voit vraiment qu'on est dans une vision extrêmement rigide en fait des parcours, où on veut effectivement qu'il y ait un temps bien déterminé, et ça se voit aussi dans les analyses sociologiques, parfois on dit voilà combien de temps il a fallu pour obtenir une licence, ceux qui ont obtenu leur licence en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, etc. Ou voilà, là aussi c'est extrêmement... ça a des effets, je trouve, sur la manière d'appréhender les parcours. Et voilà, donc à la fois dans le temps, mais aussi effectivement dans l'espace, où ce qui dérange à l'université, c'est que il y a des étudiants qui viennent d'un peu partout et puis qui vont un petit peu partout après, quoi. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait que on valorise aussi beaucoup, alors soit le système des grandes écoles, soit le système sélectif, qui tend quand même à homogénéiser mieux les publics. À homogénéiser, à faire en sorte qu'ils se ressemblent et qu'ils s'assemblent, du coup, effectivement, qu'on n'ait pas ces chemins de traverse, ces parcours atypiques, etc. Alors que ce qu'on montre dans le livre, en plus, c'est que finalement, ces parcours linéaires, que ça soit dans le temps ou dans l'espace, ils sont minoritaires. Donc, en plus, on va juger et on va jauger un certain nombre de parcours étudiants à l'aune de cas qui sont complètement marginaux, en fait, qui ne sont pas du tout la norme. Donc ça aussi c'est c'est intéressant, et effectivement je pense que c'est très français, enfin en tout cas c'est très spécifique au système scolaire français. Oui.
Bonsoir. À titre personnel, si je puis me permettre, j'ai trouvé votre livre très intéressant, très bien écrit. Avec parfois une pointe d'accent lyrique lorsque vous parlez de l'université. Et justement, ça réconcilie avec l'université et ça en donne une image tout à fait positive. Mais je me posais trois questions, n'étant absolument pas sociologue, et ce sont des questions un peu précises et peut-être un peu de détails, mais qui m'ont interrogé. La première, c'est une question méthodologique. Vous citez des statistiques nationales, mais vous étudiez plus particulièrement des statistiques de l'Académie de Poitiers, et je voulais savoir dans quelle mesure, méthodologiquement, des statistiques de l'Académie de Poitiers étaient applicables et pertinentes pour l'ensemble du territoire français. La seconde, c'est que vous vous placez, sauf erreur, dans une perspective très bourdieusienne. C'est le théoricien que vous citez tout au long de l'ouvrage, on comprend pourquoi. Mais vous faites un focus particulier vers la fin de l'ouvrage sur précisément les baccalauréats professionnels, les baccalauréats technologiques. Vous citez en particulier l'exemple de ce vivant de Loïc, qui a réussi à passer à la fac d'histoire, etc. Et vous faites également un focus sur les étudiants de classe populaire, que vous appelez également défavorisés. Et alors j'ai été étonné parce que vous classez dans les classes moyennes les artisans, les agriculteurs, les commerçants. Or on peut considérer que d'un point de vue bourdieusien, les enfants de ces classes-là ne disposent pas nécessairement du capital social et du capital culturel qui leur permettront de réussir pleinement à la faculté. Donc je voulais savoir sur quelle base vous opériez la distinction entre les classes populaires défavorisées et classes moyennes dans cette perspective-là. Et ma troisième question, c'est, vous avez fait une œuvre de sociologue, vous avez établi un constat extrêmement intéressant, très à rebours des idées reçues. Maintenant, est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez des arrière-pensées sur ce qui pourrait être fait utilement pour l'université de votre point de vue en tant que sociologue et en tant qu'enseignant? Voilà, merci.
Alors sur la première question, effectivement, on a brassé des types de données qui sont de nature différente et qui sont d'origine différente. Alors des données nationales, effectivement des données plus localisées soit de l'Académie de Poitiers, surtout de l'Académie de Poitiers d'ailleurs, il n'y avait pas de choses sur l'Académie de Nantes. Alors effectivement, ça peut poser question. Pourquoi est-ce qu'on s'est autorisé à le faire? Parce que par ailleurs, dans les travaux qu'on a pu lire ou dans les données statistiques qu'on a pu lire par ailleurs, on a remarqué qu'il y avait une certaine régularité quand même des processus et des phénomènes. Donc c'est pour ça qu'on s'est autorisé à faire une focale sur l'Académie de Poitiers en se disant que ça pouvait être généralisable, voilà, que c'était juste un zoom, une focale plus précise sur cette académie, mais que c'était des phénomènes de toute façon qu'on retrouvait par ailleurs. Et comme l'a dit Romuald, hein, ce qui est assez intéressant dans cette analyse de l'enseignement supérieur, c'est que voilà, les phénomènes sont assez réguliers. Donc ça autorise effectivement, en tout cas ça nous a autorisé, on s'est autorisé du coup à faire ça, mais effectivement vous avez raison de poser la question. Et on est conscient aussi, enfin voilà, des limites, hein, des données qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'a pas accès autrement, c'est-à-dire ces suivis de cohortes, c'est des choses qui sont extrêmement rares. Donc voilà, il y a à la fois cette précision et cette finesse, et en même temps effectivement on perd le côté un peu englobant, avec effectivement une académie qui est plutôt rurale. Enfin voilà, donc ça peut différer par exemple de l'académie de Lyon par exemple. Enfin voilà, donc, mais bon, on s'est autorisé à le faire pour ce que je viens de dire, effectivement pour la régularité des phénomènes qu'on étudiait. Pour la deuxième question sur la stratification en fait sociale qu'on a mobilisée, alors c'est vrai que c'est un découpage assez classique en fait de mettre en sociologie, de mettre les agriculteurs, les artisans et les commerçants dans les classes moyennes. Alors effectivement, d'un point de vue du capital culturel, si je reprends les termes de l'analyse bourdieusienne, ils vont pas avoir un capital culturel qui va être très important. Par contre, du côté du capital économique, c'est plutôt ça en fait qui va jouer et qui va effectivement les placer quand on va faire des agrégats statistiques dans les classes moyennes. Mais effectivement, vous avez raison de dire que c'est un type de classe moyenne qui est spécifique. Ce n'est pas, par exemple, des enfants d'instituteurs qui vont être également dans les classes moyennes, effectivement, qui vont avoir une composition en fait de leur capital qui va être beaucoup plus fort en termes de capital culturel et moins en termes de capital économique, là où les agriculteurs, les artisans et commerçants vont avoir un capital beaucoup plus formé de capital économique et moins de capital culturel. Donc là, vous avez raison, effectivement. C'est vrai que c'est des découpages. Alors, je ne sais pas à quel moment on le fait dans le livre, si c'est dans des tableaux. Enfin, voilà, généralement, c'est quand on fait des tableaux qu'on les regroupe comme ça. C'est toujours compliqué, en fait, surtout que déjà, on se base pour faire ces découpages sur les catégories socioprofessionnelles, sur les CSP, qui sont déjà une construction qui peut aussi être discutée, parce qu'il y a des rapprochements à l'intérieur des CSP qui sont... assez discutable, mais vous avez raison effectivement. Enfin, en tout cas, c'est important en tout cas d'avoir cette réflexivité, ou en tout cas voilà, cette précaution dans l'analyse, hein, complètement. Et sur les propositions politiques, non. mais c'est vrai que on a fait un travail de sociologue. Alors le problème du travail du sociologue, c'est qu'il déconstruit bien, il montre bien que c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses, mais c'est plutôt comme ça, mais après, c'est pas ce qu'il faut faire, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en sociologie, on leur dit, voilà, vous pouvez dire tout ce qui va pas, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, mais on n'a pas de proposition après. Et en tout cas, on en a peut-être de manière plus personnel, même si je trouve que c'est difficile, hein. Bon, après c'est facile de déconstruire puis de critiquer puis après de dire bon, t'as pas de solution. En tout cas, dans le livre, il faut pas être frustré par ça, parce que c'était vraiment pas, en tout cas, l'objectif. On voulait pas qu'il y ait d'amalgame, et vraiment on voulait montrer que alors si c'est un livre qui peut être mobilisé à des fins politiques, ça on le nie pas du tout, et de toute façon on part du principe que quand on choisit nos objets de recherche en sociologie, il y a forcément une part un petit peu de prise de position politique, dans le sens où on choisit pas de travailler sur n'importe quoi. Enfin voilà, il nous semble que là il y avait un enjeu important, donc là d'accord, mais par contre sur l'analyse, on a essayé vraiment d'être très sociologue et le plus objectif possible, même si on a été lyrique parfois. Mais voilà, vraiment c'est ce qu'on a essayé de faire pour que justement ça puisse être un outil par contre après pour les gens dont le métier c'est de faire de la politique, en disant voilà, là on a fait quelque chose le plus objectif possible, le plus empirique possible. Voilà, je sais pas si Romuald peut dire mieux que moi.
Mieux non. Mais dire un peu des choses supplémentaires. Je vais reprendre dans le même sens. Hein. La première question sur la méthodologie, le problème auquel on a été confronté, c'est qu'il n'y avait pas de données. Tout court. Donc il faut bien voilà, commencer par un endroit. D'un point de vue du point de vue de l'idéal auquel on aurait pu aspirer, effectivement, il aurait fallu avoir des données nationales, mais il y a plusieurs points qui défendent des idées plus localisées, régionales. C'est un, ce que je viens de dire, il n'y avait pas de données, donc il faut bien commencer. Ce qui est frappant, c'est qu'on pouvait dire ce qui se disait, par exemple, sur l'abandon, sans justement qu'il y ait de données. C'est-à-dire, il n'y a pas de données, mais on disait quand même qu'on savait pourquoi. Donc déjà, si c'était vrai, on aurait, où qu'on aille, on aurait dû quand même, même si c'était un peu nuancé, observer quand même quelque chose qui confirmait ce qui se dit. Parce que si c'est vrai que pour Paris, alors disons-le, c'est vrai que pour Paris, par exemple, mais c'est pas ce qu'il se dit. Ce qu'il se dit, c'est que tendanciellement, en tout cas, ou généralement, au niveau national, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a été voir là où on était, l'Académie de Poitiers, et ça, c'est pas ce qu'on a observé, ce qui est pas totalement satisfaisant, mais qui déjà, nous, en tout cas, dans la mesure où on voulait l'utiliser comme une vérification, une confrontation de ce discours à la réalité empirique, c'était déjà efficace. Même si après, si on voulait devenir des spécialistes de la réorientation et de cette distribution, il faudrait des données nationales. Ceci dit, à ce niveau-là, par contre, on avait quand même quelques données nationales dans l'ouvrage. Hein. C'est dès qu'on entre dans le détail qu'on est sur les données régionales, mais dès qu'on distribue, par exemple, le graphique qu'il y a derrière moi, c'est à partir de données nationales, dès qu'on reprend de façon générale. Et par ailleurs, on s'est aperçu que, toute prétention gardée, mais que les dernières notes du ministère concernant le décrochage et l'abandon ont légèrement commencé à dire les choses un peu différemment. Ils disent par exemple, ils disent abandon entre guillemets, et ils parlent beaucoup de non-réinscription maintenant, ils disent beaucoup moins facilement abandon, etc. Eux-mêmes, ça les a rendus prudents. Voilà pour les données régionales. Pour Bourdieu, ce que vous dites est très juste. On ne peut pas confondre toutes ces classes moyennes, mais il se trouve que d'une part, même chez Bourdieu, hein, les classes moyennes, ça comprend les commerçants, les artisans, les agriculteurs, etc. Dans la distinction, il fait bien la différence, mais ça, il le fait pour tous les niveaux, hein, un pôle culturel et un pôle économique, c'est ce qu'a évoqué Sophie. Donc au pôle culturel, on a par exemple les enseignants, un certain nombre de professions intermédiaires, et puis au pôle économique, on a plutôt les commerçants, les artisans. Et ça fait une grosse différence du point de vue des parcours scolaires. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas pour autant les dégrader au niveau des classes populaires, globalement des ouvriers et des employés. Là aussi, on pourrait faire des différences, hein, déjà ouvriers et employés. Mais même s'il y a une très forte évolution des employés qui les conduit pour les spécialistes de la question vers des profils qui sont finalement très proches de ce qu'on appelait la classe ouvrière il y a 30 ans. Mais malgré tout, il y a des différences non négligeable encore entre les deux groupes, mais même entre eux, les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés, par exemple. Bon, ceci dit, donc, indépendamment de ça, ce qui ne remet pas du tout en question votre remarque, c'est simplement que, malgré tout, si on se place à un niveau assez global, qui était le nôtre, on ne pouvait pas sortir les artisans commerçants pour les mettre du côté des classes populaires. Ils sont plus proches, finalement, toute mesure gardée, des professions intermédiaires que des ouvriers. Voilà, donc on a gardé, même si vous avez raison, là encore on pourrait nuancer et ce que vous laissiez entendre serait vrai, c'est-à-dire qu'on verrait des différences non négligeables entre les professions intermédiaires, les enseignants et les commerçants. Pour finir sur les propositions, donc non, effectivement, Sophie a raison, nous n'avons pas de propositions. Et d'une certaine façon, nous y tenions, hein, parce que nous voulions parler du point de vue de nos terrains, du point de vue de nos recherches. Malgré tout, il me semble, alors je suis peut-être plus optimiste que Sophie, que ce que l'on dit a des conséquences, peut-être pas sur des solutions ou des réponses toutes faites, mais sur la façon de se poser la question, et donc aussi sur la façon d'y répondre. Grand classique en philosophie, hein, quand on a bien posé la question, déjà on a la moitié de la réponse. Là c'est un peu ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire conduire à mieux poser les questions. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des choses importantes, et qui semble d'ailleurs avoir fait écho chez certains professionnels de la solution, pas une majorité, hein. mais un certain d'entre eux, malgré tout, qui ont entendu des choses sur, par exemple, la question de la régulation par l'université, donc par les filières non sélectives, avec l'idée que peut-être on avait plus intérêt à se poser la question des possibilités, par exemple, de passage d'une filière à l'autre, de savoir comment exactement les étudiants s'y prennent pour passer d'une filière à l'autre, et savoir si, dans quelle mesure on devait faciliter certains basculements, voire les anticiper, etc. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est une vraie question à se poser, et qui est beaucoup plus subtile que simplement mettre de la sélection partout. Autre chose, ce qu'on a montré, ce que Sophie continue à montrer avec ses travaux en cours, c'est comment les aspirations des étudiants sont sans cesse en construction. Et qu'on ne peut pas partir du fait que les étudiants, quand ils sont bacheliers, ou alors il faut discuter justement de leur rapport à l'enseignement supérieur, ont une vision claire de l'enseignement supérieur. Et donc on ne peut pas raisonner en termes de choix par défaut ou de choix réels. Ce ne sont pas des choix réels, ce sont toujours des choix contraints, y compris pour les étudiants les plus favorisés. C'est une des choses que montre très bien Sophie, c'est-à-dire qu'y compris pour les étudiants qui sont les plus informés et les plus favorisés socialement, il y a une fermeture par le haut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de tout ce qui est en dessous d'un certain niveau. Les SES, ça n'existe pas, etc. Alors, on pourrait, si vraiment on se concentre sur la question de la formation, là encore, on ne dit pas ce qu'il faut faire, mais si on se concentre sur la question des formations et des désirs professionnels des étudiants, il n'y aurait aucune honte à avoir fait un bac scientifique avec mention pour aller ensuite en STS. Ça existe, hein, on en trouve, mais ils sont extrêmement minoritaires et c'est souvent très dévalorisé. Y compris paradoxalement dans les STS, qui se demandent souvent qu'est-ce que viennent faire ces étudiants ici. Et ça aussi, c'est un paradoxe, mais voilà. Et autre chose sur laquelle moi je travaille en ce moment, c'est la diversité en fait de ces filières-là conduit aussi, parce qu'on oublie tout le temps, des contraintes en termes de pratiques d'enseignement, en termes de pédagogie, pour parler d'un thème qui est très à la mode, qui sont très variables et très différentes d'une filière à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler avec Mathias Millet, un collègue de Poitiers en ce moment, c'est la notion de matrice disciplinaire. En fait, l'idée, c'est que les grandes disciplines, les grandes filières se caractérisent par des contenus cognitifs, par des pratiques, par une histoire, par des contraintes épistémologiques qui sont très différenciées et qui du coup conduisent aussi à des contraintes en termes de pratiques d'enseignement très différentes. Ce qui a une conséquence très importante sur tous les débats qu'on a sur l'université, c'est que les solutions, par exemple, pour la psychologie, risquent de ne pas du tout être des solutions pour les mathématiques ou pour médecine, par exemple. Et que du coup, on a tout intérêt à rentrer dans le détail de non seulement donc de ces circulations des étudiants d'une filière à l'autre aussi, mais de la spécificité du fonctionnement et des contraintes liées à chaque discipline et à chaque filière, qu'elles soient donc purement pratiques ou cognitives, parce qu'il y a aussi des contraintes cognitives non négligeables. On ne s'approprie pas un savoir de mathématiques comme on s'approprie un savoir littéraire ou un savoir empirique de type médecine ou psychologie. Et ça, on fait toujours comme si c'était un problème marginal, que c'était pas le problème principal. Alors que nos travaux tendent à montrer que c'est au contraire très central.
Voilà. D'autres questions, remarques, n'hésitez pas. Écoutez, on va donc conclure. Je reprendrai peut-être, si je retrouve ma petite fiche, quelque chose qui m'a moi particulièrement frappé aussi dans votre livre. C'est ce que vous appelez l'université comme lieu de production de miracles ordinaires. Effectivement, ça évoque peut-être le lyrisme dont on parlait tout à l'heure. On m'a dit qu'effectivement, ce lieu de mixité sociale, de différents parcours, etc., ça produisait aussi ces miracles et qu'il fallait peut-être pas oublier qu'un des enjeux de la formation universitaire, pour reprendre vos termes, c'était d'abord de transmettre des connaissances et des savoirs d'ordre intellectuel. Sur ce, je vous remercie encore tous les deux pour cette présentation et ces échanges très riches. Merci à vous d'être venus.